Tout le monde va bien. Bon, il fait fret dehors, hein. Si les noirs pâlissent, je pense que c'est compliqué pour les blancs. Parce qu'il fait très fret dehors. Quelqu'un m'a demandé, il dit, est-ce que vous les noirs, vous avez des problèmes avec le froid? J'ai dit oui. Je dis, c'est quoi le problème? J'ai dit simplement, on pâlit quand il fait froid. Et c'est vrai, quand il fait froid, je pâlis un peu. Et je dis, tu sais ce que j'aime de l'hiver? Il dit non. Je dis, parce que ça a un fond blanc. On me voit mieux et puis les automobilistes ne me cognent pas. Ça m'évite de faire un accident et de me faire frapper par les autres. Alors, ce soir, on va prier avant de commencer. Raphaël, je veux t'appliquer ton médicament à toi-même, ton remède. Tu avais demandé à ce que les gens s'asseyent là, mais tu es l'autre bord. Où il est? C'est pas Raphaël qui est là? Ok, excusez. On dirait que je commence à avoir des problèmes avec les yeux. Prions. Seigneur notre Dieu, ce soir nous venons dans ta présence, dans l'humilité, nous remettre entre tes mains. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre maître. Tu es celui qui est la source de vie, la source de joie. La source réellement qui pourvoit à nos besoins. Celui qui nous soutient dans les moments difficiles comme dans les temps d'abondance. Et celui qui nous soutient dans la maladie comme dans l'épreuve. Et celui qui nous soutient aussi dans les combats spirituels. Tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi. Et que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous sommes conscients de cela. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais moi et mes frères et sœurs ici, nous appuyer sur toi. Que tu sois notre soutien, que tu sois celui qui va nous conduire, qui va nous enseigner, qui va nous instruire ensemble. Tu connais le besoin de chacun de nous ce soir, ceux qui sont venus affamés, fatigués, découragés, malades, défaits dans le combat. Père, ce soir, je veux que tu restaures, je veux que tu guérisses, je veux que tu encourages, je veux que tu relèves, je veux que tu fasses du bien à chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui... Ah, c'est moi qui ai l'affaire en poche. Oui, c'est ça. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, je vais faire un petit résumé rapide pour que nous puissions savoir où nous sommes, pour aider ceux qui ont compris, déjà rafraîchir la mémoire de ceux qui ont compris. Et puis ceux qui n'étaient pas là, ben, ça va être quelque chose de nouveau pour eux. Ils vont pouvoir nous suivre. Et depuis la semaine dernière, on a commencé le combat spirituel. On a commencé à enseigner sur ça, la prière dans le combat spirituel. Et nous avons vu combien le combat spirituel est important. Et combattre dans la prière, non seulement elle est importante, mais elle est aussi importante que quand elle est faite par l'esprit. Qu'il fallait prier par l'esprit pour pouvoir avoir la victoire. Alors, donc, pour rafraîchir notre mémoire, je vais continuer sur ça. Le combat dans la prière, nous avons vu la définition de la prière. Nous avons vu ce que la prière n'est pas et nous avons vu ce que la prière est. Nous avons dit que la prière, ce que la prière n'était pas, c'est que la prière n'était pas une revendication syndicale où on va se promener avec des pancartes pour revendiquer quoi que ce soit à Dieu. Et nous avons vu que la prière, ce n'est pas un moyen où on va manipuler Dieu, on va tordre le bras de Dieu pour qu'il réponde forcément à nos prières. Nous avons vu aussi que la prière, en réalité, c'est dialoguer, c'est parler avec Dieu, c'est demander à Dieu, c'est s'exprimer avec Dieu, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu et parler avec Dieu. Et ce dialogue-là, Dieu nous appelle à cela. Et nous avons vu aussi qu'il est nécessaire de mener le combat dans la prière, mais par l'esprit. Et dans cela, on a dit qu'il faut toujours prier. La nécessité de prier en tout temps. La nécessité de prier en tout lieu et la nécessité de prier avec persévérance. Beaucoup de gens commencent à prier. Et quand l'année nouvelle arrive comme ça, nous faisons des vœux, nous faisons des promesses à Dieu. Seigneur, cette année, je vais être un homme de prière. Je vais être une femme de prière. Seigneur, je vais lire ma Bible tous les jours. Nous faisons des vœux à Dieu. Et puis, quand janvier avance, on a oublié. Qu'est-ce qui fait cela? On manque de persévérance dans la prière. Et cela se voit dans notre vie quotidienne. Cela se voit aussi dans la société, tous les jours que nous voyons les décrochés de la société. Pourquoi l'école se bat pour pouvoir raccrocher des étudiants, le gouvernement? Parce que les gens manquent de persévérance. Ils ne terminent pas ce qu'ils ont commencé. Et nous devons persévérer dans la prière. Sur tout cela, même s'il est bon de prier en tout temps, en tout lieu et avec persévérance, nous avons vu qu'il est nécessaire de prier par l'Esprit. Et on a vu que prier par l'Esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier au nom de Jésus-Christ. Prier par l'Esprit, en réalité, c'est prier en conformité avec la volonté de Dieu. Et on a parlé de cela. Et on a tiré la conclusion avec ceci, que à quoi ressemblait notre vie de prière? Est-ce que nous prions par l'Esprit ou par la chair? Et sommes-nous capables de prier dans un temps, et à tout temps et à tout lieu? Est-ce que nous sommes capables de prier avec persévérance? On a parlé de ça, on a terminé avec cet homme qui priait, l'appel à la prière, où à la fin il est dit, un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est à genoux. Amen. Alors, donc, maintenant que le résumé est fait, je pense qu'on peut aller avec la deuxième partie de ce soir. Le combat dans la prière, toujours, partie 2. Alors, Paul, non seulement, on va regarder dans notre Bible, on va ouvrir notre Bible dans Éphésiens. Paul nous demande de faire Éphésiens chapitre 6. On va regarder ça ensemble. À partir de verset 18 à 20. Et Paul dit dans ce passage-là, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, là, Paul nous a parlé de faire toutes sortes de prières. Après qu'il nous a dit de porter toutes les armes de Dieu, et que nous avons été revêtus par les armes de Dieu, nous avons été revêtus pour aller au combat. Parce que ce que je vous ai dit, un soldat, quand il porte ses armements lourds et qu'il prend des munitions, ce n'est pas pour aller s'asseoir dans la caserne, jouer à la carte ou s'amuser. C'est pour aller au combat. Et nous voyons que chaque année, même avec Valcartier, on voit des soldats qui se préparent, qui vont à Kandahar. D'autres viennent les deux pieds en avant, mais d'autres viennent aussi vivants. Et ça voudrait dire que le combat fait rage. Le combat, ce n'est pas un endroit pour s'amuser. Quelqu'un a dit, on ne va pas en guerre en bobette. Vous êtes d'accord? On ne va pas en guerre en bikini. On va en guerre parce que c'est féroce, c'est dur, on s'habille conséquemment quand on va en guerre. Quelqu'un qui va en guerre là, ce n'est pas quelqu'un qui porte son t-shirt ou son chandail pour aller s'asseoir sur le balcon de sa maison pour se griller au soleil. Ça, il n'y a pas ça dans le combat. Parce que nous avons un ennemi à combattre que la Bible nous appelle le diable. Et il nous dit que nous n'avons pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les principautés. Et c'est ceux-là que nous devons combattre. Et c'est des esprits maléfiques qui ont été chassés du ciel depuis au commencement, tout juste, après la création. Et Satan est rentré en rébellion contre Dieu et il a voulu faire des mutineries pour renverser l'Éternel de son trône et il a perdu le combat. Donc la Bible nous dit qu'il est descendu sur la terre avec les un tiers des anges dessus. Et avec ceux-là, il s'est préparé pour pouvoir attaquer toute personne qui veut vivre une vie digne, une vie qui honore Dieu, une vie qui est glorieuse, une vie pieuse. Satan dit, je serai sur ton chemin et je vais t'en empêcher. Et Paul étant conscient de tout ça, il avertit les chrétiens d'Éphèse de s'armer et de rentrer dans le combat. Et la nature du combat, c'est que c'est spirituel. Et non seulement cela, c'est dans nos pensées, je vous ai parlé, que le lieu du combat se passe dans nos pensées, dans nos cœurs, et des fois aussi sur un terrain neutre de tous les jours avec nos amis et notre entourage. Qu'est-ce qui est dans nos pensées que le diable attaque? Le diable va attaquer les vérités de Dieu dans nos pensées. C'est pourquoi quand on nous parle des armes de Dieu qu'il faut porter, la vérité, la ceinture, la foi, l'évangile, des choses comme ça, le diable va attaquer ces choses-là pour essayer de les mettre en doute. Es-tu vraiment sauvé? Crois-tu qu'un homme qui est mort sur le bois depuis 2000 ans là est capable de te sauver? Alors ça, c'est une bataille spirituelle. Il va essayer de mettre ta foi en doute. Alors, il va falloir que tu te rassures avec les Écritures pour pouvoir te mettre solidement debout pour pouvoir combattre ce diable-là, pour enlever tous ces doutes et ces choses qui arrivent. Et là, l'Écriture nous dit
qu'il faut prendre le bouclier de la foi avec lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi, c'est la chose inébranlable que le chrétien a et c'est indispensable à la vie du chrétien. Maintenant que cela a été dit, on va regarder les différentes sortes de prières que Paul nous parle. Les prières de repentance. Les prières de repentance, c'est quoi une prière de repentance? Les prières de repentance, c'est une prière dans laquelle on reconnaît, on regrette et on avoue d'avoir offensé personnellement Dieu. On reconnaît nos fautes dans une prière de repentance. Dans une prière de repentance, nous sommes conscients qu'on a péché contre Dieu et on demande pardon. Je ne vous explique pas qu'est-ce que c'est que la repentance parce que vous connaissez déjà. Et quand on parle de la repentance, c'est faire demi-tour. Et nos jeunes de l'église ici ont porté un nom qu'on appelle U-turn. Ça voudrait dire nous on fait demi-tour. On partait dans un sens et que ce n'est pas bon, on fait demi-tour, on prend la bonne direction, on va par là. Donc quelqu'un qui se repent, qui fait des prières de repentance, dans sa prière, il est clair, il ne cache rien. Il est clair, il appelle le péché par son nom. Un chat est un chat, ce n'est pas seulement un félin, ce n'est pas un animal à quatre pattes. Parce que la souris aussi est un animal à quatre pattes, mais ce n'est pas un chat. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on doit appeler le péché par son nom. Et l'Écriture nous dit dans Proverbe 28, 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient. Donc, si dans le combat, je dois être capable de me repentir. Dans le combat, je dois être un chrétien qui est prompt à se repentir. Mon père spirituel me disait quelque chose. Une fois, quand il m'enseignait plusieurs fois, mais une fois, il me disait, j'étais jeune chrétien. Il dit, Adama, tu sais quel genre de chrétien le diable n'aime pas? Je dis non. Il dit, le chrétien qui ne tarde pas à se repentir. Le chrétien qui confesse ses péchés à tout moment. Quand il tombe dans un péché, il se lève, il l'avoue, et puis il se met en règle avec Dieu, il avance. Il dit, le diable n'aime pas une telle personne. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le maintenir aussi longtemps dans le péché comme il le voudrait. Donc, c'est une bataille. Un chrétien qui se repent rapidement, c'est un chrétien qui est conscient de la nature, de la puissance du combat, mais aussi qui court pour être tout le temps prêt à être avec Dieu. Dans le combat, rien ne doit nous empêcher de mener le combat. Et le péché entache le chrétien. Le péché empêche le chrétien de mener un bon combat. Le péché affaiblit le chrétien dans le combat. Le péché empêche le chrétien d'être un bon compagnon de Dieu dans la marche à laquelle Dieu l'a appelé. Donc, la Bible nous dit que Dieu est trois fois saint. Alors, il veut un peuple qui se sanctifie, qui marche dans la sanctification. Alors, quand je pêche, le diable peut m'attaquer facilement. Parce qu'il y a une faille dans ma cuirasse qu'il peut attaquer par là. Et nous voyons dans l'Ancien Testament où le diable, il y a Josué, le souverain sacrificateur, qui était en train de prier et le diable est allé l'accuser devant Dieu. Et Dieu dit, enlevez-lui les vêtements souillés qu'il porte. Donnez-lui un vêtement de fin lin. Ils l'ont rhabillé avec un nouveau vêtement, une forme de sanctification. Vous comprenez? Alors, dans le combat, pourquoi la repentance est importante dans cela? La repentance est importante dans cela parce que ça me permet d'être pur, ça me permet d'être qualifié pour le combat et de maintenir, de rester dans le combat toujours. Parce que le péché me disqualifie, la repentance me qualifie à cause du sang de Jésus-Christ versé pour moi. Chaque fois quand je m'en vais pour chercher la pureté, je suis capable d'aller mener un bon combat. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est clair? Ok. Mais mon affaire là, pourquoi il fait ça? Les jeunes vont m'expliquer pourquoi. Parce que je ne comprends pas, j'ai essayé de mettre une animation, mais ça ne fonctionne pas. Alors, la prière, est-ce que... La repentance, c'est aussi se détourner et tourner vers Dieu, revenir vers Dieu, changer de mentalité, changer de comportement. Je ne peux pas dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus vivre ça, je veux marcher pour toi, aide-moi à faire, et puis les minutes qui suivent, je me mets à les faire sans remords. Ça ne marche pas. David Landry a conté une histoire un jour, j'étais touché par ça. Et puis c'était pratique, j'étais parti l'écouter, dans le sous-sol, où il parlait avec les enfants de l'école U-Turn, à l'époque, les vendredis soirs. Et puis, je l'écoutais, il parlait un peu de la repentance aux jeunes. Il a dit, imagine-toi que Dieu est devant toi. Tu le vois physiquement comme tu me vois là. Et puis, tu le piétines. Tu dis, pardon Seigneur, je ne savais pas que c'était toi. Puis après, tu viens, tu le gifles. Ah, mais Seigneur, pardon. Dans la même journée, tu fais ça plusieurs fois là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Est-ce que tu es vraiment repentant? J'ai dit, waouh! Les enfants ont tous compris. Si moi, grand garçon, j'ai compris, les enfants, ils ont tellement compris que ça m'a permis moi-même de mieux comprendre encore comment, chaque fois quand nous péchons, comment nous offensons Dieu. Et des fois, à répétition, on fait du mal à Dieu chaque fois comme ça, de cette façon-là. Et la repentance, c'est être capable de confesser ses péchés. On va voir ça avec David. Dans la parole de Dieu, David s'est repenti. Il dit, ô Dieu, dans le psaume 32, versets 5 à 6, il dit, j'ai fait connaître mon péché. Pardon. Je t'ai fait connaître mon péché. Attends, je vais lire ici parce que là-bas, c'est loin pour moi. Est-ce que vous voyez bien ici? Ok. Je vais le lire ici dans mon papier. C'est écrit dans mes notes ici. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Où est-ce que ma feuille est partie? Hey! Bon, quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît, à côté. Psaume 132, Psaume 32, versets 5 à 6. Bien. C'est ça. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. David dit que, Seigneur, moi j'ai été honnête. Dans la prière de David, il n'essaye pas de dissimuler des choses. Bon, Seigneur, peut-être que j'ai péché. Ben, Seigneur, mais je viens te voir, quoi. Si tu peux me pardonner, quoi, pour ce que j'ai fait aujourd'hui, là. Mais hier, ce que tu as fait, tu ne parles pas de ça. Ou dans 2 heures qui est passée, tu as fait ce que tu... Non, tu dois être honnête dans ta prière. Ou des fois, les gens font une prière globale. Seigneur, pardonne tous nos péchés, tout ce qu'on a fait. Non. Parle de ton péché. Moi, mon péché, là, laisse, je vais m'en occuper moi-même. Si tu demandes pardon là, demande pour toi seul d'abord. Et puis moi-même, je suis capable de demander pardon pour moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est une façon de camoufler parce que les gens ne veulent pas être honnêtes. Ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux ou de dire d'eux. Mais sois vrai devant Dieu quand tu pries. Et David dit, je n'ai pas caché mes transgressions. Je les ai avouées. C'est pourquoi il a obtenu un pardon pour son péché. Amen. Alors, donc, la Bible nous donne des garanties que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est une garantie que Dieu nous donne lui-même. Il dit, si tu viens à moi, si tu es sincère, si tu reconnais ton péché, si tu l'avoues, moi, Dieu, je te pardonne. Et dans le psaume 66, verset 18, il dit, si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Continue. Alors, on voit la situation, l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue est parti de la repentance. Je suis toujours dans la repentance. Il est parti de chez son père. C'est-à-dire, son papa n'est pas encore mort. Lui, il est parti dire à son père, on n'a qu'à partager son héritage. Il veut prendre sa part. Lui, il s'en va. En Afrique, si tu fais ça là, on dit, tu as enterré ton papa vivant. Et son papa n'est pas mort. Lui, il réclame sa part. On lui donne. Il s'en va. L'Écriture nous dit qu'il est allé dans un pays lointain. Il est allé gaspiller son argent. Au point qu'il a commencé à manger avec des cochons. La dégradation. D'une position élevée, il s'est ramassé en bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce garçon n'est pas resté dans le péché là-bas. À un moment donné, il est rentré en lui-même. Et il a décidé de retourner chez son père. Et l'Écriture nous dit que étant entré en lui-même, il dit et il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je suis ici, je meurs de faim. Là, il commence à comprendre que son papa a beaucoup d'abondance. Et il continue. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il ne vient pas en disant, bon, papa, ben, je suis revenu à la maison. Peux-tu m'accepter de rester à la maison? Non, non, non. Il vient, il confesse son péché. Il avoue, il dit ce qu'il a fait qui n'est pas bon. Il le dit à Dieu, à son père. Et puis il est pardonné. Il est reçu dans l'histoire. À la maison, on le revêt d'un nouveau habit. Et on met un anneau d'or dans son doigt. Quand Dieu pardonne, Dieu restaure. Il restaure totalement. Il ne te pardonne pas avec à peu près, mais il te restaure totalement. Donc dans les prières de repentance, dans le combat, c'est nécessaire pour être victorieux, pour demeurer dans le combat. On continue. Les prières de louange. C'est quoi les prières de louange? Je vous demande, vous là, les prières de louange, c'est quoi? Je vous écoute. Dire ce que Dieu est. Oh ouais, ben tu es en train de lire ce que oh, moi. Ok, tu lis ce que moi j'ai dit, écrit. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire ce que tu penses. Alors, les prières de repentance, de louange, c'est dire ce que Dieu fait. Une prière de louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Dieu a fait beaucoup de choses. Et David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses. Dans le psaume 103, c'est ce que David dit. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire ce que Dieu a fait dans ma vie dans le passé. David s'assoit. Il est seul. Il ne parle pas avec un prophète. Il ne parle pas avec personne. Il dit, mon âme, bénis Dieu. Il donne des raisons pourquoi son âme doit bénir l'Éternel. Et puis il dit, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Y a-t-il des chrétiens qui oublient les bienfaits de Dieu quand ça chauffe? Quand ça ne marche pas à l'école? Quand ça ne marche pas au travail? Quand ça ne marche pas dans le couple? Quand ça ne marche pas avec ta blonde et ton chum? Quand ta blonde ou ton chum t'a largué? Est-ce que tu oublies les bienfaits de Dieu? Mais David dit, moi, même dans la maladie, dans la souffrance, dans les épreuves, David dit, mon âme compte les bienfaits de Dieu. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis Dieu pour cela. Dans le combat, le chrétien doit être capable de louer Dieu. Le combat, la louange, la prière de louange, c'est une façon d'être reconnaissant à ce que Dieu a fait hier. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il pourra le faire demain. Il pourra le faire après-demain. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... André, je suis seul qui parle. Et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était hier là, il l'est aujourd'hui. Et demain, il le sera. Après-demain, il le sera. Éternellement là, ça ne finit pas. Éternellement, ça ne veut pas dire vieux. Hein. C'est chaque jour, c'est la même chose. Il ne change pas. Il continue. Les prières de louange. Quand on regarde dans le psaume 9, David dit aussi là, il dit, je loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je raconterai toutes ses merveilles et je ferai de toi le sujet de ma joie. Et dans mon allégresse, je chanterai ton nom. Il y a un chant qu'on chante comme ça, non? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. C'est ça, c'est inspiré de ce chant-là, de ce psaume-là. C'est ça. Je vais louer l'Éternel. Le soldat de Christ dans le combat spirituel doit être capable de louer Dieu, danser pour Dieu. Et la louange, c'est ça. La louange, c'est le contraire des murmures. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le contraire des murmures. La louange, c'est le contraire de chiolage. On aime chioler, la bouche pleine, le ventre plein. David dit, là, je vais louer Dieu. Et le croyant doit louer Dieu. Les prières de louange.
continue. En tout cas, les jeunes, vous allez me montrer pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je voulais là. Il faut que je sache comment ça fonctionne. Oh, Michel, je vais aller te voir. Alors, je viens de dire, les prières de louange, c'est le contraire de des murmures. Et c'est une gratitude qu'on a. C'est différent de l'ingratitude. Les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Hein? Ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui ont murmuré contre Dieu, ils sont morts. Dieu les a sortis de l'esclavage en Égypte. Il a fendu la mer Rouge comme un morceau de tissu qu'on déchire. Il les a donnés à manger. On dit pendant 40 ans, leurs vêtements ne se sont pas déchirés. Vos vêtements que vous portez là, ça dure combien de mois sur vous? Mais pour eux, là, 40 ans, ça ne s'est pas déchiré. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Pendant la journée, la nuée les couvrait. La nuit, une colonne de feu les conduisait. Et quand ils avaient faim, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Mais tout ce qu'ils ont pu faire pour remercier Dieu, c'était de murmurer contre son serviteur Moïse. En rejetant Moïse, ils étaient en train de rejeter Dieu, le choix de Dieu. Ils étaient en train de s'attaquer à Dieu. Comme quand tu t'attaques à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, à l'autorité de Dieu dans l'église, tu t'attaques à Dieu lui-même. Et Dieu les a fait payer cela. Tous ceux qui ont fait ça sont tombés dans le désert, ne sont pas rentrés à Canaan. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu à cause des petites difficultés. Frères et sœurs, dans les moments de difficulté, c'est le moment où tu dois te tourner en arrière pour regarder ce que Dieu avait fait hier, avant-hier, l'année passée. Et aujourd'hui, tu dis, cette situation-là, si Dieu a été bon hier, il a été bon avant-hier, il a été bon il y a l'année passée, pourquoi il ne sera pas bon aujourd'hui? Amen. Pourquoi il va changer aujourd'hui? Il ne changera pas, il est constant. Dieu est bon par nature. Sa nature, c'est bonté. Donc, dans le combat spirituel, le croyant qui sait louer Dieu, ça voudrait dire quoi? Qu'il n'a plus peur du diable. Il voit la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. Et quand le combat fait rage, il dit, ce Dieu qui a été bon avec moi, ce Dieu qui m'a soutenu, et encore le combat est difficile aujourd'hui, il sera avec moi et on va remporter la victoire. Amen. Et c'est ça. Et nous pouvons voir que dans la louange, c'est important. Marie a loué Dieu. Élisabeth a loué Dieu. Deux femmes stériles qui n'avaient pas d'enfants. Mais quand elles ont eu un enfant, elles ont loué Dieu. Leur bouche était remplie de louanges. Le paralytique devant le temple de Salomon, quand il a regardé Pierre et Jean, ils l'ont dit, nous n'avons rien pour te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le boiteux s'est levé, il a marché. La Bible nous dit ça. Et le boiteux, là, il a loué Dieu. La Bible nous dit que ça a été un sujet de louange dans tout le temple. Nous devons être capables de louer Dieu, frères et sœurs. La louange est la marque des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne loue pas, il y a un problème. On doit être capable de louer Dieu et de dire des bienfaits de Dieu. Des fois aussi, il arrive qu'à la maison, on devait être aussi capable d'être reconnaissant à nos parents. On peut leur dire merci des fois. Les jeunes comme les vieux. Des fois, il arrive que je parle avec quelques jeunes. Mais est arrivé une fois, un jeune est venu me voir, il n'est plus ici. Il me dit, mon papa et ma maman sont comme ci, sont comme ça, ils ne m'aiment pas. Je dis, il veut me faire comprendre que son papa et sa maman ne l'aiment pas. Il veut me convaincre. Puis je lui demande, tu es certain que ton papa et ta maman ne t'aiment pas? Il dit oui. Tu es vraiment certain? Il dit oui. Je dis, bon, moi, je vais te donner le contraire. Ta maman, quand elle était enceinte de toi, là, l'avortement était légalisé. Elle pouvait t'avorter. Elle ne l'a pas fait. Quand tu es né, là, quand elle te donnait le bain, elle pouvait te noyer dans le bain. Elle ne l'a pas fait. Personne n'était là pour la contrôler. Il n'y avait pas de policier derrière elle. Hein. Quand tu es malade, là, elle aurait pu te laisser souffrir dans la maladie. Puis aller se coucher, te laisser mourir. Elle ne l'a pas fait. Elle t'a donné à manger. Elle t'a donné du lait. Quand tu donnais des cadeaux dans les couches, là, même ça puait là, mais elle échangeait pareil. Et puis elle te donnait ton bain. Elle a dû adapter sa journée de tous les jours, ne plus écouter les émissions préférées, écouter les émissions des enfants à la télévision et à la radio dans l'auto, à cause de toi. Ton papa à accepter d'aller travailler beau temps ou mauvais temps, sous la pluie ou mauvais temps, ou dans la neige, dans le froid, même quand il fait frais comme ce soir-là, il est sorti pour aller travailler pour que toi tu sois au chaud. Ils ont payé tes études. Quand tu as demandé des affaires que tu avais besoin, ils l'ont fait pour toi. Puis aujourd'hui là, tu veux me faire croire que ton papa et ta maman, ils ne t'aiment pas. Va réfléchir. Je vous dis que quand le jeune homme est parti, le lendemain là, il n'est plus venu avec cette même musique. Il a changé. Il dit, je n'avais jamais vu la vie de même. Personne ne m'avait jamais assoi pour m'expliquer les choses de cette façon. Des fois, frères et sœurs, pour apprendre à louer Dieu, nous devons aussi apprendre à apprécier ce que nos parents font pour nous, ce que la famille fait pour nous, ce que nos amis font pour nous, ce que nos professeurs font pour nous, ce que nos patrons font pour nous au travail. Si on a appris à les dire merci un peu, ça va nous aider à pouvoir débloquer, à dire louer Dieu comme il faut. Amen. Au Québec, c'est difficile. Quand tu complimentes quelqu'un, il dit, ouais, tu veux quoi? Il pense que tu attends quelque chose de lui. Il dit, tu veux quoi? S'il me dit que je suis beau, c'est qu'il va demander quelque chose après. Et on m'a toujours dit que si on te donne des fleurs, il y a le pot qui vient avec. Il faut attendre que le pot s'en vienne. Mais je veux vous dire qu'avec Dieu, quand vous complimentez Dieu, il n'y a pas de pot qui vient avec. Ou quand Dieu vous complimente, il n'y a pas de pot qui vient avec. Et soyons des gens qui savent louer Dieu et qui savent bénir Dieu. Amen. Prière d'adoration. Adorer, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'adorer? Adorer, en hébreu, c'est écrit, c'est Sha'a ou Shaka, Michel. Alors, ce qui signifie s'incliner, se prosterner, se courber. Dans certaines sociétés, encore, ça existe. Où les gens, quand ils vont saluer quelqu'un d'important, de majestueux, on le salue comme ça. On s'abaisse ou on enlève son chapeau. Au Québec, on fait ça, non? On enlève le chapeau pour saluer quelqu'un d'important, quelqu'un de supérieur, quelqu'un de respectueux. On s'abaisse, on s'incline. Et ça vient de là. S'incliner devant Dieu. Adorer Dieu. Et ça, c'est très, très important, l'adoration. L'adoration est une chose recherchée par Dieu. Et l'Écriture nous dit à maintes reprises que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Dans Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 4 plutôt, avec la femme samaritaine au puits de Sychar, la Bible, quand Jésus a parlé avec elle, la femme lui a dit, vous les Juifs là, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Mais nous, moi, mes parents me disent que Dieu là, qu'il faut aller l'adorer sur telle montagne. Jésus lui dit, femme, l'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit avec vérité, car Dieu est esprit. Amen. Parce que Dieu est esprit, désormais on peut l'adorer partout, en tout lieu et en toute place. Mais Dieu cherche des adorateurs de qualité. Pas des adorateurs poche. Pas des adorateurs à 2 pour 2, 25 là, c'est pas ça qu'il veut. Non, 2 pour 1 là, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut des adorateurs qui sont sincères, qui vont l'adorer en esprit et avec vérité. Il cherche ceux-là. Sommes-nous des vrais adorateurs, vous et moi? Sommes-nous des gens qui adorent Dieu avec la vérité et en esprit vraiment? Alors, Dieu cherche ses adorateurs. Adorer, c'est dire à Dieu ce que Dieu est. Nous avons vu que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Adorer, c'est dire ce que Dieu est. Dans ses attributs, nous disons à Dieu ce que Dieu est. Adorer, c'est exalter Dieu dans toutes ses vertus et ses attributs. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Et c'est ce que Dieu est vraiment. Il est El Shaddai, El Shama, El Olam. Et tous ces attributs qui sont dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu est. Et si nous lisons la parole de Dieu, nous allons connaître les attributs de Dieu. Et puis, adorer Dieu sera facile pour nous. Et toutes les fois que dans la Bible, on voit des gens tomber devant Dieu, quand Dieu se révèle, les gens tombent à la renverse. Prosternés face contre terre. Dans l'Apocalypse, on le voit dans d'autres passages de l'Écriture. Et on voit dans d'autres passages de l'Écriture aussi que Jésus a toujours accepté d'être adoré. Il n'a jamais dit à quelqu'un, ne m'adore pas. Mais on voit que Pierre a dit à Corneille de ne pas faire ça.
Et l'ange qui est apparu à Corneille, Corneille veut l'adorer. Il dit, non, je suis aussi un serviteur comme toi. Il ne veut pas qu'il l'adore. Mais Jésus a accepté l'adoration parce qu'il est Dieu. Et Dieu interdit de l'adoration de toute autre chose. Donc, adorer, c'est rendre gloire à Dieu. Mais c'est aussi déclarer Dieu digne. Quand j'adore Dieu, je dis que Dieu est digne de mon adoration. Il est digne de recevoir les fruits de mes lèvres. Je le mets à la place qui le convient. L'adoration, c'est la vraie place qui convient à un enfant de Dieu. Tout chrétien doit être à genoux devant Dieu. Et c'est aussi un état d'esprit, un état, une attitude qui va avec. Quand j'adore, ce n'est pas faire olé, 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 ce n'est pas sauter et puis tourner tout le monde. Non. C'est une attitude aussi de cœur qui est suivie avec ça. L'adoration. Adorer, c'est s'effacer devant Dieu. Et nous voyons que quand nous prions, nous nous occupons de Dieu. C'est quelqu'un qui a dit ça, une citation. Quand nous adorons, quand nous prions, nous nous occupons de nos besoins à nous-mêmes. Mais quand nous adorons, nous nous occupons de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand je prie, Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, je veux boire du lait. Seigneur, je veux avoir une belle voiture. Seigneur, je veux avoir une belle blonde. Je veux avoir une belle femme. Bon, j'en ai déjà une. Je ne demande plus ça. Seigneur, je veux ci, je veux ça. Alors, ça, ce sont mes besoins à moi. Je suis centré sur moi-même. Et où on dit, on fait du nombrilisme. Mais quand j'adore, je sors de moi-même et mes tensions, mes états, mon cœur, mon attention, tout est centré sur Dieu lui-même, sur sa personne, sur ce qu'il est. Vous me comprenez? Et les filles, quand vous êtes en admiration d'un joli garçon, vous le voyez, tu vois, les filles sont assises à côté de lui. Et puis, elles le regardent dans ses yeux avec admiration. Elles sont accrochées à ses lèvres, tout ce qu'elle dit. Ou tout ce qu'il dit. Parce qu'on tombe en admiration avec la personne, on l'aime. Et on veut rester avec eux, la personne. Et c'est comme ça qu'on doit être en admiration avec Dieu. Michel dit, il faut avoir souvent le « wow ». C'est ça, hein? Chaque fois, il faut avoir le « wow ». Le « wow ». C'est important. Avec Dieu. Les choses qui sont interdites, l'interdiction d'adorer. Il est interdit d'adorer d'autres choses que Dieu. Et dans Exode 20, il nous dit ça. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération de ceux qui m'haïssent. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quand Satan courait après Jésus là pour le tenter là, il lui dit, si tu es fils de Dieu, adore-moi et je te donnerai tout le royaume. Il a refusé. Il dit, il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Jésus venait de mener un combat spirituel comme ça. Le diable lui propose et lui dit, regarde, tu as quitté le ciel, tu es venu sur la terre. Au lieu d'aller mourir à la croix là, tu es venu pour conquérir la terre, non? Pour que les humains t'adorent et qu'ils le rient. Mais adore-moi, moi je vais te donner tout ça. Et puis tu n'as plus besoin d'aller à la croix. Et tu es en train de damadouer Jésus. Tu n'as plus besoin d'aller à la croix. Tu n'as pas besoin d'aller souffrir, te faire battre. Tout ça, c'est compliqué. Prosterne-toi simplement. Et moi, je te donne le monde entier avec toute sa gloire. Croyez-vous que si Jésus s'était prosterné, le diable aurait donné ça? Il est en train de dire ce qui appartient à Dieu. Il lui dit, c'est comme quelque chose, un auto qui t'appartient, je te dis, adore-moi, je vais te donner ton auto dehors qui t'appartient, là, je vais te le donner. Mais ça t'appartient, est-ce que tu as besoin de m'adorer? Le monde et les cieux et tout appartient à Dieu. Est-ce qu'il a besoin d'adorer Satan pour recevoir ça? Non. Jésus a refusé. Pourquoi? C'est pas parce que seulement il est fils de Dieu. C'est vrai que s'il avait fait ça, il ne serait plus fils de Dieu. Parce qu'il ne sera même plus Dieu, parce que Dieu ne se prosterne devant aucune autre chose. Mais Jésus ne l'a pas fait. Parce qu'il est écrit, il connaissait les Écritures. Il est écrit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que l'Éternel seulement. Et s'il avait échoué, le premier Adam a échoué, le deuxième Adam a échoué, le monde restera dans son péché encore. C'est pourquoi il ne pouvait pas échouer. Il fallait qu'il réussisse. Donc c'était un combat spirituel. Et Jésus a réussi à avoir la victoire sur l'ennemi. Amen. Les prières de supplication. C'est quoi une prière de supplication? Je vous demande. Hein? Quand on supplie, ben c'est facile. C'est écrit supplication. Quand on supplie. Ouais, quoi d'autre? Ha ha! Waouh, c'est ça. L'idée d'urgence dans la prière. Les prières de supplication, c'est une prière urgente, pressante, qui nécessite une réponse immédiate. Elle est urgente, elle est pressante, elle exige une réponse maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai cherché des illustrations, je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé que je vais vous dire là, soyez pas fâchés après moi là. Est-ce que vous avez déjà une fois eu la diarrhée et puis il y a quelqu'un qui est dans la douche, dans la toilette et puis tu as envie là. Tu as de la diarrhée qui te presse là. Puis tu vas aux toilettes, il y a quelqu'un dedans. Oh, tu viens, puis tu es là, tu bouges. Tu attends. Il n'a qu'à sortir, s'il te plaît, sors. Tu bouges dans tous les sens. Tu t'assois, les pieds, ça se... Des fois, même certains, les boucans sortent par les oreilles. Mais c'est vrai. Parce que quand il y a vraiment une diarrhée que ça ne peut pas attendre là, s'il y a quelqu'un dans la toilette là, tu veux qu'il sorte maintenant. Parce que ça presse, il y a quelque chose qui presse. C'est la vérité, il ne peut pas attendre. Soit tu te salis, soit il sort de la toilette. Et les prières de supplication, c'est une prière urgente. C'est une prière qui ne peut pas attendre. C'est une prière qui est précise. Ce n'est pas une prière vague. Bon, je ne sais pas, est-ce que tu as la diarrhée? Je ne sais pas si j'ai de la diarrhée, mais... Quelqu'un qui a la diarrhée, il ne dit pas aux gens qu'il a la diarrhée. Il court, il cherche les toilettes. Donc, quand tu as un besoin pressant dans la prière, la supplication, là, c'est un besoin pressant qui sont certains, qui sont clairs, précis, et puis tu rentres en prière. Seigneur, si tu ne fais pas ça, ce n'est pas correct, ça ne marche pas. Il faut que tu m'aides. Et je vous dis que j'ai vécu ça. Quand je suis venu ici en 98 pour me marier avec Anne, et Anne est tombée malade dans l'avion, avant qu'on arrive ici. On se mariait le 8 août. Et on est arrivé pendant un mois, Anne était à l'hôpital. Et on était sur le point de changer la date de notre mariage. Et les médecins m'ont dit, Adama, tu as bien fait de donner tel médicament à la dernière minute quand tu as donné. Ses plaquettes étaient à terre et si elle dépassait cette journée, elle mourait. Et je me souviens encore du médecin qui a pris soin de ma femme qui s'appelle Docteur Poirier, qui est un spécialiste pour les pays tropicaux et les maladies des pays tropicaux. Et je me souviens encore de ce monsieur-là. Je vous dis, jour et nuit, pendant qu'Anne est à l'hôpital, je suis à genoux. Je ne priais pas trois fois par jour, je priais plus de cinq fois par jour. J'intercédais pour Anne. C'était une prière de supplication. Mais je vais venir sur l'intercession aussi après. C'était une prière de supplication qui était urgente. Seigneur, je ne veux pas être veuf avant de rentrer dans le mariage. Seigneur, je ne veux pas être veuf. Seigneur, cette femme-là, quand je t'ai demandé, dans la prière, c'est faite pour moi, tu m'as dit oui, tu m'as convaincu et tu as donné des... Je t'ai testé, tu as accompli les signes comme il faut. Tu ne m'as pas donné tous ces signes-là. Tu ne m'as pas amené au Canada pour venir fêter ou bien venir participer dans les funérailles de ma femme. Non, non, non. Je veux cette femme-là vivante. Je la veux parce que tu m'as convaincu qu'on est fait l'un pour l'autre. Seigneur, fais quelque chose. Je ne sais pas comment, mais il faut qu'elle se lève. Je ne sais pas comment, mais il faut qu'on se marie le 8 et qu'elle soit en santé et qu'elle marche, qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne soit pas faible. Seigneur, fais quelque chose. Je vous dis là, ça c'est une prière urgente. Si vous êtes dans mes culottes en ce moment-là, vous allez comprendre que c'était une prière urgente. Et Dieu a répondu. Anne s'est levée. Deux semaines avant le mariage. Et on s'est mariés. Ici même, sur cette même place-là. Je me souviens que c'était le jour de mon shawa. Ils ont essayé de tromper Michel et Diane pour fêter leur 25e anniversaire de mariage. Ici, France et leur fils Luc on organisait ça dans le sous-sol. Et ils venaient à l'église, pensaient que c'était mon chawa, mais nous, on les attendait en bas pour fêter leur 25e anniversaire de mariage. Je me souviens encore, hein? Alors, une prière de supplication, frères et sœurs, c'est ça. C'est des prières qui sont urgentes. Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. On prie avec conviction. Et c'est souvent accompagné de larmes. C'est souvent accompagné de désespoir. Mais on veut que Dieu fasse quelque chose. Anne, qui n'avait pas d'enfant, est allée dans la maison de l'Éternel. Elle priait avec désespoir parce qu'elle voulait avoir des enfants. Et Pénina, sa rivale, l'avait beaucoup attaquée, agacée. Elle priait. Et tellement qu'elle priait, puis elle pleurait. On dit qu'Élie a pensé qu'elle était ivre. Elle suppliait Dieu. Seigneur, un enfant, viens enlever mon opprobre. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un enfant. Si tu me donnes, Seigneur, cet enfant-là, je le mettrai à ton service. La rasoir ne passera pas sur sa tête. Et Dieu a donné cet enfant. Anne a répondu à son vœu et a fait cela. N'est-ce pas? Et ça, c'est des prières de supplication. Et Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et cette prière juste de fervente du juste, là, ça se voit dans des moments comme ça. Les prières de supplication. Et l'Écriture nous dit que Jésus lui-même a fait des prières de supplication. Dans Hébreux. Il a fait des prières de supplication. Il est un modèle pour nous, un exemple pour nous de prières de supplication. Dans le combat spirituel, à quoi servent toutes ces formes de prières-là? Quand je suis dans le péché, ça me disqualifie. Alors je me mets en règle, je me repens, je suis apte, je suis en règle avec Dieu, je marche aux côtés du roi des rois, on combat l'ennemi et on gagne, la victoire est là. Quand je rentre dans des prières de louange, je me rappelle de ce que Dieu a fait hier, avant-hier, aujourd'hui, et qu'il va être le même aujourd'hui et demain. Amen. Et donc pour cela, comme il a été grand dans le passé, hier et aujourd'hui, il sera grand aujourd'hui avec moi, et le combat, on va le gagner. Et quand je vais rentrer dans des prières réellement d'adoration, je vais me souvenir de la grandeur de Dieu, de la beauté de Dieu, de tout ce que Dieu est, et de ma petitesse. Et je vais compter sur les forces de Dieu au lieu de compter sur moi-même force pour aller au combat. Parce que l'Écriture dit, sans Christ, nous ne sommes rien. Et quand je rentre dans les prières de supplication, alors je me souviens de Dieu. Et je montre ma toute dépendance de Dieu. Et je montre à Dieu vraiment que s'il ne fait rien, je suis foutu. En bon québécois, on dit « je suis fait à l'os ». Si tu n'interviens pas, je suis fait à l'os. Et c'est ça. Et Dieu intervient. Et prière d'intercession, c'est quoi? Intercéder. Et c'est là Paul nous appelle. Dans le texte que nous avons lu, il nous dit « faites des prières de supplication ». Paul était en prison. Il demande, faites des prières de supplication. Toutes sortes de prières. Mais des prières de supplication. Mais après, il parle, priez pour tous les saints et priez pour moi. Là, il parle de l'intercession. Priez pour tous les saints. Le chrétien est appelé à intercéder pour tout le monde. Nous sommes une famille. Nous avons un dénominateur commun, Christ. Nous avons un ennemi commun, le diable et le monde. Alors nous devons nous mettre ensemble pour combattre ce monde-là. Nous devons être unis ensemble. C'est pourquoi Paul nous demande de prier les uns pour les autres. Ton problème, c'est mon problème. Si tu ne dors pas, je ne dormirai pas. Si tu as des difficultés, j'aurai les mêmes difficultés. Parce que nous sommes liés. Notre destin est un ensemble. Je ne peux pas t'abandonner. Et il y a un proverbe africain qui dit que celui que tu ne peux pas abandonner là, il ne faut pas manger le médicament de savoir courir plus vite pour le laisser. Parce que tu ne pourras pas aller loin, tu vas venir le reprendre encore pour parler. Donc donne-lui en même temps, vous allez prendre les médicaments ensemble, puis vous allez pouvoir être capable de courir plus vite tous les deux. Plutôt que toi, tu prends, puis tu dis, bon, je vais courir pour le laisser. Non, ça ne marche pas. Donc nous sommes peuple de Dieu. On est unis, ensemble. Nous devons prendre soin des uns des autres. Je sais qu'il y a des frères et sœurs ici qui passent des nuits de prière pour intercéder, les uns pour les autres. Et c'est important. C'est ce que Paul dit, priez pour nous. Ézéchiel, dans Ézéchiel, la Bible nous dit que Dieu est à la recherche des intercesseurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se mettent à genoux pour intercéder. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, mais afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Et je ferai retomber sur leur œuvre, sur leur tête, dit le Seigneur éternel. Parce que Dieu ne trouve pas quelqu'un pour prier. Parce que Dieu ne trouve pas une femme ou un homme qui dit que cette cause-là me tient à cœur. Mon frère-là me tient à cœur. Je vais prier pour lui. La nation me tient à cœur. Le peuple me tient à cœur. Je vais prier pour le salut du peuple québécois. Je vais prier pour le salut du peuple canadien. Je vais prier pour mes frères. Je vais prier pour les trifluviens. Je vais tenir ça en main. Et Seigneur, je vais me tenir à la brèche tant que Trois-Rivières n'est pas sauvée et que les gens ne sont pas venus à toi, je n'arrêterai pas de prier. Il dit, je n'en trouve pas. Dieu veut détruire un peuple. Il va envoyer un jugement sur un peuple. Il donne l'occasion à quelqu'un. Il dit, une seule personne. Il dit, je cherche un homme. Un homme. Il n'y en a pas. Peut-être ce soir, Dieu cherche un homme qui va prier pour Trois-Rivières, pour le Cap de la Madeleine, pour l'Assemblée chrétienne, pour chacun de nous ici. Est-ce que tu veux être cet homme sur qui Dieu peut compter ce soir? Pour que tu intercèdes pour son peuple. Dieu cherche cela. Il dit, je ne trouve pas. Est-ce que tu veux être cette femme de Dieu qui intercède? Alors, intercéder, c'est quoi? C'est plaider pour autrui. Quand j'intercède, je plaide pour autrui. Je porte le fardeau de quelqu'un d'autre. Son fardeau devient mon fardeau. Ses problèmes deviennent mes problèmes. Je me mets dans les bottines de quelqu'un d'autre. Et je vis ce que la personne vit. Je sens ce que la personne sent. Je souffre comme la personne. Porter le fardeau de quelqu'un, d'un peuple, d'une nation devant Dieu dans la prière. C'est ça, intercéder. Élie a fait cela. Il a prié pour la femme de la veuve et pour le fils de la veuve qui est décédé. Il a pris cet enfant-là, il a intercédé pour eux. Il dit, Seigneur, amène-le à la vie. Dieu a amené cet enfant à la vie. Abraham a intercédé pour un peuple, Sodome et Gomorrhe. Il a dit, Dieu, est-ce que tu vas détruire ce peuple-là? S'il y a 50 personnes qui sont honnêtes dedans et justes. Dieu dit non. Il a négocié jusqu'à 10 personnes. Il a argumenté avec Dieu. Il a parlé avec Dieu. Puis, Dieu a dit, si dans cette ville-là, il y a 10 personnes qui sont justes, je ne détruirai pas la ville. Est-ce qu'il a trouvé 10 personnes? Non. Mais la personne qui était juste dans cette ville-là n'a pas été détruite avec, elle est sortie. Cependant, la Bible dit qu'il était tourmenté par tout ce qu'il voyait à Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille. Il était juste, mais Dieu l'a sorti avant de détruire la ville. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est allé chercher les choses sur les valeurs de Dieu lui-même. Il connaissait Dieu, c'est son ami. Il sait ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Il dit, toi, dans ton caractère, tu ne détruis pas le bon avec le méchant. Celui qui est droit, tu ne le détruis pas avec le mauvais. Alors tu vas les séparer. Seigneur, s'il te plaît, sépare. Il a intercédé et sa prière a été exaucée. L'intercession a une puissance. L'intercession peut délivrer. L'intercession fait du bien à des nations. Si nous intercédons pour notre nation, pour nos leaders, pour nos dirigeants, pour nos pasteurs, pour nos anciens, pour nos diacres, pour nos moniteurs de l'école de dimanche, pour nos familles, les pères de famille, les chefs de famille, les mères de famille, nous prions pour eux. Vous allez voir, Dieu va changer des choses. L'avenir de nos jeunes, leur école, leur futur mari, qu'ils puissent faire des choix éclairés dans la vie, leur métier qu'ils vont choisir dans l'avenir, que ça puisse être un bon métier qui ne va pas les éloigner de Dieu, mais qui va les rapprocher de Dieu. Est-ce que nous prenons le temps pour prier pour eux? Les grands-parents, priez pour vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Amen. Alors, donc, on dit intercéder, c'est l'amour à genoux. C'est aimer quelqu'un au point que tu te mets à genoux à sa place. Tu te mets à genoux à sa place. Et cette citation a été dit, prier pour les autres, c'est une meilleure façon d'aimer. La meilleure façon d'aimer, prier pour les autres. Et c'est ce que Paul nous demande dans Éphésiens. Il dit, priez pour moi. Éphésiens, priez pour moi, démontrez-moi votre amour, intercédez pour moi, plaidoyez pour moi, je suis en prison, mes mains sont liées, priez pour moi s'il vous plaît. Priez non seulement pour tous les chrétiens, mais priez pour moi. Pourquoi? Il ne demande pas pour son confort, il ne demande pas pour qu'il soit à l'aise, il ne demande pas qu'on lui envoie un chèque. Il le prie, il dit, pour qu'il soit fidèle. Pour qu'il puisse avoir le courage de proclamer la parole de Dieu devant les rois et devant qui que ce soit il va rencontrer. Parce qu'après, là-bas, là, Paul va aller rencontrer des chefs, des empereurs, des chefs romains. Il va les rencontrer. Mais il dit, intercédez pour moi. Plaidoyez que Dieu me donne la force. S'il vous plaît, est-ce que nous prions pour nos dirigeants de l'Église? Est-ce que vous priez pour vos anciens qui sont des leaders spirituels de cette Église? Est-ce que vous priez pour vos diacres? Plutôt que de passer plus de temps devant la télévision, plus de temps à jouer au billard, plus de temps à jouer à picoter sur les téléphones cellulaires, quand ça sonne, les jeunes sont en syncope, on dirait qu'ils manquent leur drogue. Quand ça sonne, il faut qu'ils prennent. Est-ce que, par rapport à tout ça, est-ce qu'on prend plus de temps dans la prière devant Dieu? Je vous assure que si cette Église se met à prier pour tous ses leaders, qu'elle prie pour tous ses dirigeants, pour tous ceux qui sont impliqués dans le ministère, je vous assure que cette Église, elle va grandir et vous allez voir Dieu à l'œuvre. C'est ça. On va continuer pour terminer là. Je pense que, voilà, c'était mon dernier point. Quand on intercède, nous plaidons au nom de Jésus-Christ. La justice de Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu et toutes les promesses de pardon et de salut que la parole de Dieu nous donne. Ainsi, nous sommes sûrs d'être exaucés. En conclusion, j'ai mis une page blanche. Ces cinq formes de prière que nous venons de voir. Prière de repentance, prière de, je vais voir si vous m'avez suivi, prière de louange, adoration, supplication, intercession. Pourquoi Paul nous demande de faire toutes ces formes de prière si ce n'était pas nécessaire? Nous devons nous exercer à faire tout cela. Dans notre vie, je les ai pris en ordre comme ça. Paul n'a pas mis ça en ordre. Je les ai mis en ordre comme ça. Quand un chrétien rentre dans la prière, avant de demander quoi que ce soit, il doit s'examiner, être sûr s'il est propre. Est-ce que vous partez voir Jean Chrétien ou bien Stéphane Harper, vous avez rendez-vous avec le premier ministre? Est-ce que vous allez le voir sans vous laver, sans vous porter quelque chose de propre pour aller le rencontrer? Non, on s'habille bien. Quand vous partez en entrevue, est-ce que vous vous habillez comme un pouilleux pour aller? Non, vous vous habillez bien. Et quand j'intercède ou quand je rentre dans la prière, je dois m'examiner et voir si ma vie est en conformité avec Dieu. Parce qu'il est trois fois saint. Alors je me sanctifie. Et la façon de me sanctifier, c'est de confesser mes péchés et demander pardon. Dieu me purifie. Et à partir de ce moment, je peux rentrer dans le reste de la prière. Et après l'intervention de la sanctification, après maintenant, c'est quoi? Je loue Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je commence à louer Dieu pour ses bienfaits. Et après, je vais rentrer maintenant dans la prière d'adoration. Là, je vais commencer à adorer Dieu pour ce qu'il est. Et puis après, je vais rentrer dans les prières de supplication. Je vais supplier Dieu s'il y en a ces sujets-là dans ma vie ou pour d'autres frères. Et après, je rentre dans l'intercession. Je vais intercéder pour tout le monde. Et ça, ces cinq formes de prière devraient faire partie de notre vie de tous les jours. Si tu développes seulement un là, le jour que tu vas être de l'autre côté, tu ne peux pas. C'est comme quelqu'un qui veut faire du sport. Il développe seulement un seul bras. Puis un seul pied. Puis après, ici, c'est fort. L'autre côté, c'est comment? Ça ne marche pas. S'il vous plaît, frère, que Dieu nous aide à mener un bon combat. Nous avons des ennemis devant nous. Et ces ennemis-là, ils ne s'amusent pas. Dans le monde, quand tu fais la boxe, il y a des règles. Mais avec le combat spirituel, le diable, il n'a pas de règles. Si tu tombes, il te termine. Prions que Dieu nous aide à tenir debout et à faire sa volonté. Je demande à Michel s'il peut nous conduire dans la prière, s'il te plaît. Amen.